France Culture. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Deuxième épisode ce matin de notre série consacrée à la morale selon le philosophe du XVIIIe siècle Emmanuel Kant. Aujourd'hui, faut-il être moral pour être vraiment libre ? Emmanuel Kant ne nie pas qu'il existe un premier visage de la liberté. Nous ressentons que nous pourrions faire ceci, ou bien cela, ou encore cela, ou bien d'autres choses. Il s'agit de ce que certains philosophes appellent le libre arbitre, ou encore la liberté d'indifférence. Celle-ci peut d'ailleurs donner un peu le vertige, s'avérer paralysante. C'est la fameuse parabole, souvent évoquée dans l'histoire de la philosophie et attribuée hâtivement à un certain docteur scolastique français du XIVe siècle nommé Jean Buridan. Cette parabole met en scène un âne affamé et assoiffé qui se trouve à équidistance de deux picotins d'avoine, ou bien selon les versions d'un picotin d'avoine et d'un seau d'eau, et qui, faute de parvenir à choisir vers où se diriger en premier, meurt sur place de sa faim et de sa soif. Piètre liberté. Mais il faut bien qu'elle existe, cette liberté, dans une certaine mesure, pour que nous puissions nous penser capables de choisir, en évitant précisément le drame de ce pauvre âne. C'est-à-dire capable d'embrasser une option, ou au contraire de nous rétracter, de nous corriger. Or, à propos de cette capacité de choisir ou de déterminer notre liberté, Kant dit ceci. C'est seulement lorsque nous suivons la voie de notre raison morale ou pratique, au lieu d'embrasser des mobiles qui flattent nos envies sensibles ou qui expriment nos craintes religieuses par exemple, c'est seulement dans ce cas, celui du comportement moral, que nous sommes vraiment libres. Car alors, affirme-t-il, nous sommes pleinement autonomes, nous obéissons à une loi que nous nous sommes nous-mêmes donnée. On peut a priori s'en étonner. Le commandement moral intérieur, si ferme, Kant parle d'impératif catégorique, correspond-il vraiment à une liberté plus véritable, comme l'assure Kant, que le fait de suivre pour se déterminer son plaisir ou son intérêt? Nous allons voir comment les invités de ce matin expliquent ce point essentiel de la théorie morale d'Emmanuel Kant. Bonjour Antoine Grandjean.
Bonjour Géraldine.
Vous êtes professeur à l'Université de Lille, spécialiste de philosophie moderne et contemporaine, et en particulier excellent connaisseur de Kant. Je renvoie notamment, mais votre bibliographie est grande, elle est sur notre site, à votre Kant Actuel, paru aux presses universitaires de France en 2024. Et bonjour Christian Berner.
Bonjour Géraldine.
Vous aussi, votre bibliographie est longue et elle est sur notre site. Vous êtes professeur d'histoire de la philosophie de langue allemande à l'Université Paris-Nanterre. Récemment, vous avez co-dirigé avec Denis Thouars, Jean-Claude Jans et Johann Michel un ouvrage intitulé « L'interprétation, dictionnaire des auteurs » paru chez Vrin en 2025. Vous connaissez extrêmement bien l'œuvre de Kant. Pour commencer notre discussion sur la vraie liberté selon Kant, mettons en scène un autre personnage que l'âne de Buridan, cet âne qui ne sait que faire comme je le racontais à l'instant. Prenons au contraire le cas d'une jeune fille qui sait ou croit savoir très bien ce qu'elle devrait faire, mais qui ne parvient pas du tout à obéir à cette injonction. Voici Alice au Pays des Merveilles.
Oh là là, si j'arrive à rentrer à la maison, j'écris un livre sur ce pays. Si jamais j'y arrive, ce serait si agréable de trouver quelque chose de raisonnable et de sensé. Oh, je suis bien punie. Ma sœur avait raison, si je l'avais écoutée, je ne serais pas ici. Mais malheureusement, j'ai un vilain défaut.
Bien sûr, je sais ce que je dois faire. Mais hélas, je fais tout le contraire. C'est pourquoi j'ai tant d'ennuis sur cette terre.
Voilà, j'ai parcouru ma route heureuse sans être jamais raisonnable. J'ai oublié que les erreurs se paient.
jour ou l'autre. Je sais très bien ce que je dois faire, mais je fais hélas tout le contraire.
Extrait du film Walt Disney de 1951, Alice au Pays des Merveilles, adapté du roman de Lewis Carroll. Antoine Grandjean, on lui a dit ce qu'il est bon de faire. Elle dit qu'elle sait ce qu'elle doit faire, mais elle n'y arrive pas et elle fait tout le contraire. Ce cas est-il envisageable par Emmanuel Kant ?
Ah oui, bien sûr, il est envisageable et envisagé, c'est-à-dire que... Bon, déjà, il faut quand même prêter attention à ce que je dois faire veut dire dans ce contexte. Ici, je pense que l'idée, c'est pas une question morale, hein, c'est pas le devoir au sens moral qui est en jeu, mais c'est ce qu'il me faut faire pour précisément ne pas payer des erreurs. Donc, au fond, c'est plutôt quand même la question du bonheur qui est en jeu dans, oui, dans cet extrait. Mais si on passe au sens moral du devoir... l'idée de Kant, c'est que, en effet, une jeune fille, hein, il dit en général à 8 ans, c'est bon, elle sait ce qu'elle doit faire moralement. Et au fond, tout être humain à peu près normalement constitué sait ce qu'il doit faire. Il n'y a pas besoin d'être un savant. C'est un anti-intellectualisme moral que Kant défend. Donc, au fond, tout être humain normalement constitué est suffisamment équipé pour savoir ce qu'il doit faire, s'il prend la peine de réfléchir évidemment à la situation. Mais savoir ce que l'on doit faire, ça ne signifie pas que ce savoir suffit à vouloir ce que l'on doit faire. Et c'est un motif qui est très ancien, hein, qu'on trouve chez les anciens, qu'on trouve dans le Nouveau Testament, hein, « je vois le meilleur mais je fais le pire ». Et ça, ça renvoie à ce que Kant appelle la fragilité de la liberté humaine. C'est ce qui est un premier degré de ce qu'il appelle le penchant au mal. C'est-à-dire que, au fond, la puissance d'exécution de ce que l'on sait devoir, c'est une puissance qui est fragile, parce que nous sommes des êtres finis. Mais il ne suffit pas de savoir ce que l'on doit faire pour le faire.
Et en même temps, je ne veux pas trop anticiper sur une émission... de demain qui évoquera la théorie et la pratique, etc. Mais je suis en mesure de le faire, je peux le faire. Il insiste, c'est fragile, c'est difficile, mais je peux.
Oui, la possibilité, je l'ai, mais passer à l'acte, ça inclut une dimension de décision de la liberté qui, elle, est fragile. Et donc la possibilité, elle est garantie parce que sinon, le devoir serait absurde. Si j'éprouvais un devoir qui me soit impossible, alors c'est la voix de la conscience qui me dit ce que je dois, qui en me prescrivant ce que je ne peux pas faire deviendrait absurde, insensé, ce que Kant ne juge pas concevable. Et donc la possibilité, je l'ai. Mais passer à l'acte, au fond, accomplir, ça inclut une deuxième dimension de la liberté, la puissance d'exécution. Et cette puissance, elle est fragile, car nous sommes des êtres finis.
Donc cette impossibilité, cet échec, peut-être empreint de ce que Sartre appellera plus tard de la mauvaise foi, est-ce que vous diriez aussi, Christian Berner, que c'est central, au fond, ce problème chez Kant ?
Alors, le problème est central dans la mesure où, effectivement, il faut pouvoir penser une certaine effectuation de la liberté, de la morale, donc à long terme, ce qui... Il faut pouvoir espérer qu'on agira à terme de façon morale, de façon générale. Mais lorsqu'il pense la morale, il pense le devoir, le tu dois de façon absolue, et effectivement, en raison de la fragilité, c'est-à-dire de la finitude humaine, rien ne garantit que l'on puisse effectivement, étant des hommes sensibles, soumis aux inclinations, aux désirs, aux passions, etc., que l'on puisse effectivement faire ce que le devoir comme tel nous impose. Et cela renvoie à cette théorie, enfin, il a essayé de penser la liberté en distinguant très nettement entre deux perspectives sur l'homme. Une perspective qui est une perspective morale, une perspective qui est une perspective que l'on peut dire théorique ou sensible. C'est-à-dire que dans un sens, nous sommes toujours déterminés parce que nous sommes des êtres de nature et là, nous sommes soumis à nos inclinations, etc. Et par ailleurs, nous sommes aussi des êtres de raison où nous entendons la voie claire et distincte de la loi morale, le « tu dois », il n'est pas dit que l'on puisse passer justement effectivement de l'un à l'autre. Et Kant dit, je crois que cela a été rappelé hier, Kant dit, on ne sait pas s'il n'y a jamais eu une seule action morale dans le monde, c'est-à-dire qui ait choisi la loi morale, d'obéir à la loi morale.
Les pleurs d'Alice Christian Berner sont assez intéressants. J'ai l'impression que Kant dirait, bon ça c'est quand même une expérience de pensée, hein, de savoir ce qu'il dirait d'Alice au Pays des Merveilles, mais peut-être qu'il dirait, vous voyez comme c'est dur quand on obéit à des impulsions et pas à la loi morale, loin d'être heureuse et de se sentir libre, elle éprouve de la contrainte.
Alors, il y a une forme de contrainte, bien évidemment, mais surtout lorsqu'elle elle prend conscience qu'elle ne fait pas ce qu'elle doit. Et donc, cette conscience de ne pas faire ce que l'on doit renvoie à une conscience un peu plus forte, hein, qui est une conscience morale, et qui s'apparente, pour ainsi dire, au repentir, parce qu'elle regrette de n'avoir pas fait ce qu'elle devait faire.
Comme et elle ne se sent pas joyeuse et d'avoir embrassé, par choix, conscient, libre, voilà, l'impulsion. Après tout, on peut choisir, parfois, de ne pas entendre la loi morale. Mais là, Kant ne considère jamais qu'on embrasse l'impulsion sensible contre la loi morale librement. Il a du mal à dire ça, non, Christian Berner ? Ça, c'est pas kantien, ça.
C'est-à-dire qu'il comprend bien qu'il faut choisir, il faut bien être libre pour choisir le bien. Hein. Et donc, ça va le pousser à penser cette théorie qui est compliquée, qui va développer plutôt dans la religion, dans les limites de la simple maison, de la simple raison, à savoir celle du mal radical. C'est-à-dire que je dois pouvoir choisir de façon atemporelle, donc comme je choisis le bien, je dois pouvoir choisir le mal, sans quoi il n'y a pas, à proprement parler, de liberté.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Antoine Grandjean ? Celui qui choisit le mal, est-il libre, aussi libre que celui qui choisit le bien, je parle pour Kant, sachant qu'en même temps, il y a aussi des gens qui choisissent le mal et qui aiment bien se présenter comme contraints et déterminés, qui refusent éventuellement leur part de liberté. Donc c'est un sujet un petit peu complexe. Parlons de celui qui fait le mal d'un point de vue kantien. Comment est-il déterminé, libre, en vérité? Et puis, comment le ressent-il?
Ah non, il est libre. C'est-à-dire que, en fait, la complexité, elle consiste au fond à distinguer plusieurs sens de la liberté. Mais choisir le mal, ça implique nécessairement la liberté de ce choix, sans quoi, si on est déterminé à agir, il n'y a pas d'imputation de l'action et pas de qualification morale. C'est-à-dire que c'est un fait, comme une pierre qui tombe, c'est un fait, elle obéit aux lois de la pesanteur, elle tombe. Donc il faut absolument, pour que on parle d'une conduite mauvaise, que cette conduite soit librement choisie. Mais donc ici, c'est une question de liberté de choix. Oui. Et le choix n'est pas la seule figure de la liberté. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle en effet la liberté de l'arbitre, hein, de la faculté de choisir entre diverses possibilités. Mais cette liberté de choisir, c'est une expression de ce que liberté veut dire, et la liberté ne se réduit pas à cette expression. Car au fond, la liberté de choisir, c'est la liberté, donc si on est dans une situation morale, hein, la liberté de choisir entre obéir à la loi morale, c'est-à-dire agir par respect pour cette loi, et donc s'efforcer d'accomplir ce commandement que la raison nous présente, ou le choix libre, hein, mais d'obéir à des inclinations qui nous insèrent dans l'ensemble des causes et des effets de la nature, en vue d'atteindre ce que Kant appelle le bonheur, et bonheur qui est notre fin en vertu du fait que nous sommes des êtres sensibles qui appartenons à la nature. Et donc le choix lui-même, c'est l'expression d'une liberté qui signifie soit obéir à sa raison, soit obéir au fond à la nature. Mais ce choix entre deux possibilités, vous voyez que la première, le choix d'obéir à sa raison, c'est le choix de ne pas se déterminer à l'action en vertu de ce que la nature me tend, me pousse à vouloir. Oui. Et donc, c'est le choix d'une liberté qui consisterait à se tenir au niveau de la liberté. Alors que le choix de désobéir à la loi, le choix, au fond, de poursuivre les fins que la nature me pousse à désirer, c'est une liberté dont l'expression s'éteint dans ce choix, car c'est la liberté de se soumettre à la nature. C'est une liberté, vous voyez, évanouissante d'une certaine manière. C'est bien une liberté, mais la première solution, c'est une liberté qui fait le choix de s'accomplir comme liberté, y compris dans la totalité de sa conduite.
Donc, quoi que les immoraux disent de leurs impulsions, ils sont libres. On va y revenir. Mais, si je vous comprends bien, la liberté d'embrasser son impulsion est une moindre liberté que la liberté de choisir la loi morale qui appartient, comme dit Kant, à notre nature suprasensible. Le fait d'avoir cédé à notre nature sensible librement, j'ai bien compris, est une moindre liberté par rapport au fait d'avoir embrassé la loi morale. Il y a encore d'autres mots, j'aimerais vraiment que vous les expliquiez, qui sont très importants. Dans un cas, si j'ai bien compris, Kant parle d'hétéronomie, on obéit à une norme qui est quand même celle de notre nature, mais il parle d'hétéronomie. Quand on parle de la liberté morale, on est obéi à la loi morale, on est dans l'autonomie. Alors maintenant que j'ai posé les mots de Kant, j'ai vraiment besoin d'explications. Christian Berner.
Alors l'hétéronomie, c'est effectivement, on se soumet à sa nature en tant qu'être sensible, naturel, et en fait, on est soumis précisément à la loi de la nature, comme telle. Et donc on n'est pas soumis à la loi dont on est que l'on pourrait se donner. Et l'autonomie, par opposition à l'hétéronomie, donc une loi qui est extérieure, l'autonomie, c'est l'acte par lequel, au moyen de la raison, le sujet se donne à lui-même sa propre loi, qui est une loi rationnelle. C'est un modèle qu'il emprunte à Rousseau, dont on cite très souvent le contrat social. Lorsqu'il parle de la liberté morale, il dit que l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. Parce qu'on est à soi-même l'auteur de la loi.
Donc on est plus libre parce qu'on a fabriqué la loi nous-mêmes par notre raison. Nous sommes les seuls êtres de raison.
Voilà, c'est une liberté rationnelle.
Et elle est supérieure, celle-là.
Et c'est une liberté qui est supérieure, bien évidemment, parce que justement, elle se détache de la nature. Et cette autonomie est mise en œuvre, cette loi morale est mise en œuvre à travers ce dont vous avez parlé hier, c'est-à-dire les impératifs, les différents impératifs, où vous avez le moyen qui permet justement d'instaurer la loi à partir de la maxime de la volonté, c'est-à-dire ce qu'on se propose de faire. On arrive à instaurer une loi qui, elle, est rationnelle par l'universalisation de la maxime.
Mais l'impératif catégorique moral que la raison en nous formule, tu dois faire ceci, tu ne dois pas faire cela, ça, il est terrible. Il s'appelle d'ailleurs impératif catégorique, il est inconditionnel, il est terrible. C'est une contrainte intérieure présentée par Kant comme vraiment rude. Et pourtant, ça, obéir à ça, dans cette contrainte, c'est la vraie liberté. C'est la forme la plus haute de la liberté. C'est quand même troublant.
De la liberté morale, oui, bien sûr, c'est troublant, dans la mesure où on se soumet à la raison. Et nous sommes des êtres rationnels pour lesquels la liberté est ce qu'il y a de suprême, et cette liberté est ancrée dans l'activité même de la raison. Être rationnel et être libre, c'est la même chose pour Kant. Et donc, de ce fait, évidemment, il y a une contrainte, la loi morale contraint. On ne peut pas dire que l'impératif catégorique me dise de faire ceci ou cela. L'impératif catégorique me donne une formule qui me permet de saisir la moralité de mes maximes, savoir si la maxime est morale ou si elle ne l'est pas. Agis de telle sorte à ce que la maxime de ton action puisse être érigée en loi universelle. Donc ça, c'est une formule qui ne dit pas ce que je dois faire, qui me dit comment je dois
procéder
dans l'analyse de ma volonté pour arriver à cette
morale. Ce qui s'appelle impératif catégorique, c'est ça fait et un mot et un adjectif qui disent la contrainte sous une forme absolue. Pourquoi la contrainte formulée rationnellement, la raison pratique, donc la contrainte morale, lui obéir, est-ce plus libre que d'obéir aux impulsions, elles-mêmes contraignantes un peu, de ma sensibilité, Antoine Grandjean.
Alors, il faut, si je peux me permettre, il faut distinguer deux choses qui sont d'une part la loi morale, donc l'idée selon Kant que être libre, c'est agir conformément à une loi, parce que toute action obéit à un certain type de loi. Et donc, être libre, c'est lorsque l'action obéit à une loi qui est celle de la raison. Mmh. Cette loi, il se trouve que pour nous, qui sommes encore une fois des êtres finis, des êtres à la fois rationnels et sensibles, pour nous, elle prend la forme d'un impératif. Mais au fond, cette forme, c'est la forme que prend la loi lorsqu'elle est adressée à des êtres qui ne lui sont pas spontanément conformes. Mmh. Car nous avons, au fond, une tendance à poursuivre notre bonheur, qui en elle-même est totalement innocente, mais agir conformément à la loi, c'est pas nécessairement agir pour être heureux. Et donc, pour nous, qui avons cette dualité qui constitue notre finitude, la loi prend la forme d'un commandement, d'un impératif. Et c'est là qu'elle devient contrainte.
Oui.
Mais cette dimension impérieuse, vous voyez, elle fait pas l'essence de la loi morale. C'est la loi morale quand elle s'adresse à un être fini. Et donc, elle prend cette forme impérative, oui, contraignante. Et donc, au fond, obéir à cette contrainte, s'y soumettre librement, c'est se soumettre à une loi qui est celle de notre raison. Et donc, c'est le motif que rappelait Christian tout à l'heure, c'est-à-dire que obéir à une loi qui est celle de notre raison, c'est obéir à nous-mêmes, si vous voulez, et donc c'est être libre dans l'obéissance. Alors que l'autre possibilité, c'est choisir librement d'obéir à une loi qui n'est pas la nôtre, mais celle qui détermine le mécanisme de la nature selon lequel, à chaque fois que quelque chose se produit, cet événement est l'effet nécessaire de causes qui précèdent, il s'explique selon les lois de la nature, alors les lois physiques, les lois psychologiques, les lois sociales, tout cela c'est de la nature, si vous voulez, car ça conduit à expliquer comme un effet nécessaire du passé toute décision présente.
C'est comme si la nature, qui nous pousse, qui nous donne des impulsions, c'était moins nous-mêmes que la raison pour Kant. La raison, c'est vraiment nous-mêmes.
Alors,
le suprasensible, c'est vraiment nous-mêmes. Le sensible, la nature, ce n'est pas vraiment nous.
Bah, c'est-à-dire, je ne dirais pas les choses comme ça, c'est-à-dire que nous, c'est cette dualité. Hein. Nous, c'est cette tension.
Oui.
Mais il se trouve que la part de nous, qui est, si vous voulez, la nature, c'est une part de nous qui est un effet de pas nous, un effet d'avant, un effet des autres, etc.
Oui.
Et donc, nous ne sommes pas entièrement, si vous voulez, l'effet de nous-mêmes. Alors que pour la part qui relève de la rationalité pure, etc., alors c'est une part de nous qui peut être un effet de notre liberté.
Quitte à nous obliger à sacrifier des impulsions naturelles, mais c'est pas grave, si j'ai bien compris, parce que à ce moment-là, ben voilà, on est plus nous-mêmes en tant qu'être rationnel, et c'est ça qui compte.
Alors, c'est pas grave, ça dépend. Et sacrifier, c'est peut-être pas le bon mot. C'est-à-dire, il s'agit pour Kant toujours de subordonner, c'est-à-dire de faire passer après.
Oui.
C'est pas la même chose que sacrifier.
Oui,
il n'est
effet,
jamais question de renoncer à son bonheur.
Enfin, quand même, quand on a un choix, on sacrifie une des alternatives.
Ah oui, immédiatement.
Oui.
Si il se trouve, et c'est pas nécessaire, mais s'il se trouve au fond que ce que je dois faire s'oppose à ce que je désire immédiatement faire, je dois soumettre le désir au devoir. Mais ça, cette soumission, encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est facile, hein, et ça ne veut pas dire que ce n'est pas douloureux.
Oui, oui.
Mais ce n'est pas un sacrifice, il ne s'agit pas de renoncer au bonheur, jamais. Il s'agit simplement, dans certains cas, de devoir arbitrer, pour le coup, librement, hein, entre le devoir et le bonheur, lorsqu'ils ne vont pas dans la même direction.
Dans la Critique de la raison pratique, son livre de 1788, Emmanuel Kant donne un exemple, même deux. Et alors là, vraiment, c'est la nature sensible face à la loi morale rationnelle. Il parle très franchement de quelqu'un qui se trouve devant une maison close. Où il pourrait...
Maison close ou...
Ou maison quoi.
Maison ouais, ça peut être une maison ouverte.
Oui, oui, oui. Bon, enfin, on a compris quand même. Vous allez entendre, on va entendre la lecture, où il pourrait satisfaire ses sens. Et alors, le problème qu'il traite là, là aussi, on va essayer d'élaborer à partir de là, c'est qu'en fait, on a toujours le choix de ne pas y aller. Et il va essayer de montrer que si on propose d'autres alternatives, on saurait ne pas y aller. écouter ce texte. Il y a deux exemples dans cet extrait, c'est très dense, mais ça va nous permettre d'éclairer beaucoup de choses.
Supposez que quelqu'un prétende de son inclination voluptueuse qu'elle lui est tout à fait irrésistible quand l'objet aimé et l'occasion se présentent à lui. Si, devant la maison où il trouve une telle occasion, un gibet était dressé pour l'y pendre, aussitôt qu'il se serait adonné à la volupté, ne dominerait-il pas alors son inclination ? On devinera vite ce qu'il répondrait. Mais demandez-lui si, dans le cas où son prince prétendrait obtenir de lui, sous la menace de la même peine de mort immédiate, qu'il porte un faux témoignage contre un honnête homme qu'il voudrait bien supprimer sous de fallacieux prétextes. Il tiendrait alors pour possible, aussi grand soit par ailleurs son amour de la vie, de triompher de ce dernier, malgré tout. Il n'osera peut-être pas assurer s'il le ferait ou non, mais que cela lui soit possible, il lui faut le concéder sans hésitation. Il juge ainsi qu'il peut quelque chose pour cette raison qu'il a conscience qu'il le doit. Et il reconnaît en lui la liberté qui, sinon, sans la loi morale, lui serait restée inconnue.
Bon, mea culpa, je ne crois pas en effet que ce soit une maison close. C'est une maison qui abrite l'objet aimé. La tentation est très grande d'aller le voir. Donc c'est une liaison amoureuse, peut-être. Ce n'est pas bien d'y aller, en tout cas dans le contexte qu'évoque Kant. C'est notre nature sensible qui nous y pousse. Il faudrait savoir résister. Les gens qui ne résistent pas nous disent en général qu'ils n'ont pas pu, que la contrainte était trop forte, qu'ils n'étaient pas libres. Et il veut prouver que si, la preuve, il pourrait résister si on mettait un gibet à la sortie qui produirait une pendaison si jamais cette personne était entrée dans la maison. Là, on saurait se retenir. Que veut dire Kant ici ? Quel est le point qu'il soulève, Christian Berner ?
Alors, dans ce premier exemple, il ne dit pas qu'il ne doit pas. Hein. La loi morale n'est pas impliquée. Je pense que le premier exemple, on essaye de montrer l'existence de la liberté. Quelqu'un dit « je ne peux pas résister à mes penchants, mes inclinations, ici, l'inclination voluptueuse, etc. Je ne peux pas y résister. Par conséquent, je ne suis pas libre. » On lui rétorque « si on vous menace de vous pendre en sortant, vous verrez que vous n'irez pas. Donc vous êtes libre de ne pas y aller. »
Donc la liberté de choix, dont nous venons de dire qu'elle est une moindre liberté. Après, il y a des formes plus élaborées de la liberté, mais en tout cas, elle existe.
Donc, on lui dit qu'il serait libre de ne pas y aller. Et Kant répond, on devinera vite ce qu'il répondrait. Il répondrait, en fait, ce que j'échange, c'est une volupté, enfin, satisfaire une inclination sensible, mais ce qui est plus fort comme inclination, c'est l'amour de la vie. Et donc, je ne vais pas risquer de perdre l'amour de la vie, qui est aussi sensible, oui, au bénéfice de cet autre, de l'inclination voluptueuse. Et par conséquent, si je n'y vais pas en raison du gibet, cela ne prouve pas du tout ma liberté. Cela signifie simplement que l'amour de la vie m'importe plus que la satisfaction immédiate de...
Et que je peux donc choisir situation.
Et donc, ouais, du coup, je ne choisis pas. Et donc, du coup, je ne choisis pas.
Parce je peux choisir l'amour de la vie qui me fera résister.
Mais comme c'est les inclinations, ouais, je serai pris par cet amour de la vie et donc je ne serai pas libre.
Et alors le deuxième exemple. Oui, Antoine Grandjean. Et puis enchaîner sur le deuxième exemple parce que moi je suis.
Non, en fait, c'est-à-dire que comme Christian vient de dire, en fait, on ne peut pas isoler le premier exemple du deuxième. Alors, c'est-à-dire que la construction de Kant, là, c'est l'enchaînement de ces deux exemples. Donc on a dans le premier exemple l'idée que quelqu'un donc désire en effet ce qui est en question. Hein, c'est disons prendre du plaisir sexuel dans une maison close ou ouverte, hein,
voilà,
étant conduit par son désir de plaisir sexuel, serait confronté à l'idée que, en fait, c'est pas bien. Et donc, alors après, on peut construire, hein, chez Kant, bon, c'est pas vraiment là la question, mais l'idée, c'est que chez Kant, en gros, le plaisir sexuel n'est légitime moralement que dans un cadre restreint qui est celui du mariage hétérosexuel. Bon, voilà, pas entrer dans les détails maintenant, mais donc, imaginons que donc, dans cette maison, le plaisir qui sera pris ne sera pas un plaisir conjugal, disons, et donc c'est pas bien.
Ouais.
Et donc, cette personne va répondre, je peux pas m'en empêcher. Et donc, on lui dit, d'accord. Et si, quand tu sors, tu es pendu immédiatement, est-ce que tu vas t'en empêcher ? Alors ça, c'est un exemple qui fait écho à quelque chose qu'on trouve dans Rousseau, dans l'Émile, hein, où Rousseau fait référence à une anecdote concernant Cléopâtre, hein, où on disait qu'au fond, il y a un certain nombre de sujets de Cléopâtre qui étaient prêts à mourir pour passer une nuit avec elle.
Ah oui.
Et Rousseau dit, d'accord, ils étaient prêts à mourir pour passer une nuit avec elle, mais imaginons qu'on leur ait dit, mais vous serez pendu en sortant. Et là, alors, ils n'iraient pas. Parce que ça marche que si, et c'est un peu plus loin la mort, si vous voulez. Et donc, Rousseau en conclut, lui, que c'est une preuve de la liberté, au fond, on peut résister à ses passions. Mais du point de vue de Kant, ce n'est pas du tout une preuve de la liberté, c'est ce qu'il appelle une liberté psychologique, puisque, comme l'a dit Christian, au fond, ici, c'est juste qu'au fond, l'amour de la vie ou l'instinct de conservation est plus fort que l'inclination la plus forte pour Kant, qui est l'inclination au plaisir sexuel, car le plaisir sexuel, c'est le plus grand plaisir que l'on puisse ressentir, dit Kant. Et donc, il y a ici quelque chose qui triomphe de l'inclination la plus forte, c'est l'instinct de conservation. Mmh. Mais c'est toujours la nature, ça. Mmh. Et c'est pourquoi le deuxième exemple, seul et concluant pour Kant. Imaginons du coup que l'angoisse de mort, qui est plus forte que toute inclination au plaisir, soit mise en jeu dans une situation face, cette fois, à un commandement moral. Et c'est le deuxième exemple. Imaginons qu'un despote vous commande de commettre un faux témoignage pour décrédibiliser quelqu'un que ce despote veut condamner. Et alors là, Kant dit, vous avez le choix, du coup, entre obéir à l'angoisse de mort, c'est-à-dire commettre ce faux témoignage...
Parce que sinon, vous serez tué par le despote, c'est
voilà.
Ça qu'il faut ajouter, oui.
Ou alors, obéir à la loi morale qui vous dit que commettre un faux témoignage, c'est immoral, ça relève du mensonge, et en plus, vous allez conduire quelqu'un en prison qui est innocent. Et donc là, cette fois, on a l'angoisse de mort, qui était le mobile naturel le plus fort, comme le premier exemple a montré, qui est confronté au respect de la loi morale. Et Kant dit, celui à qui on va intimer cet ordre de commettre un faux témoignage, il ne vous dira pas qu'il va obéir à la loi morale, il n'en sait rien, et moi-même, je n'en sais rien. Mais en revanche, il va découvrir qu'il pourrait faire passer le devoir avant la vie. C'est-à-dire qu'il pourrait faire passer la loi de sa raison avant ce qu'il y a de plus fort dans ses inclinations naturelles, c'est-à-dire l'amour de la vie. Il va donc découvrir qu'il peut faire le choix de la loi morale simplement parce qu'il a conscience qu'il doit faire ce choix. C'est une possibilité. Et donc, ce qu'il découvre dans la soumission, enfin dans la conscience du devoir, ce qu'il découvre, c'est qu'au fond, la nature ne peut jamais passer pour ce qui est la seule cause de son action. Il découvre qu'il peut agir en faisant abstraction de ce qu'il y a de plus fort dans la nature, qui est l'amour de la vie. Il découvre donc qu'il est libre parce qu'il sait qu'il doit. C'est ce que Kant appelle « tu dois, donc tu peux », de la conscience du devoir, je parviens à la conscience que je suis libre. Et cet exemple, il est repris un peu plus loin avec un cas historique, hein, le cas d'Henri VIII, qui, marié à Anne Boleyn, mais se lassant de son épouse et désirant divorcer une deuxième fois, puisqu'il a divorcé une première fois pour épouser Anne Boleyn, ce qui a d'ailleurs conduit, au fond, à la création de l'Église anglicane, hein, Henri VIII décide de faire accuser Anne Boleyn, dont il veut divorcer, d'adultère, ce qui n'est pas le cas. Et donc, Kant reprend cet exemple en disant, voilà, quelqu'un à qui Henri VIII soumet l'ordre de « tu vas dire qu'Anne Boleyn est adultère », il saura, même si Henri VIII le menace de pendaison, qu'il peut
ne
être
pas le faire.
Plus fort que le désir de rester en vie.
Alors, ça dépend quelle anthropologie on a, quelle vision des humains on a. Là, Kant est certain que, avant de dire quelque chose de faux, de terriblement calomniant, de faire un faux témoignage, chose très immorale, même si vous pourrez avoir la vie sauve en le faisant, eh bien vous hésiterez. Il y a quand même beaucoup de gens dans l'histoire qui n'ont pas hésité. Et oui, des dénonciations, envoyer d'autres gens à la mort pour sauver sa propre peau, c'est quand même assez banal. Et puis il y a d'autres philosophes, évidemment le plus facile à évoquer c'est Thomas Hobbes, puisque Kant a écrit explicitement aussi contre Hobbes, qui vous dirait « il n'y a rien de plus fort que la conservation de la vie ». Votre histoire de morale, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Et évidemment qu'on fera tout, même un parjure, même un faux témoignage, pour sauver sa peau. Christian Berner.
Il faut bien noter que dans cet exemple, il y a aussi l'opposition entre le monde moral, là où il sait qu'il doit et donc qu'il peut, hein, cet ordre moral, et l'ordre de la nature, le déterminisme naturel, où il est soumis effectivement à tout. Et dans le naturalisme un peu hobbésien, hein, dans le naturalisme comme tel, évidemment, on suit les inclinations naturelles et on est soumis à ce mécanisme, si vous voulez, de la nature. Alors ici, il n'hésite pas vraiment, hein, il n'hésite pas vraiment, il ne sait pas ce qu'il fera, il n'hésite pas. Mais alors là où il n'hésite absolument pas, c'est que sans hésitation, il sait qu'il ne doit pas porter de faux témoignages contre son prochain. Là, vous avez aussi l'introduction de l'humanité, ça c'est la formulation de cet impératif tel qu'on le trouve dans l'Exode, porter un faux témoignage contre son prochain. Et donc ça, c'est absolument immoral. Et ça, c'est sans hésitation.
Il éprouve que c'est très grave s'il, malgré la sensation rationnelle qu'il a de la loi morale, s'il ne l'écoute pas, il sent la gravité du moment.
Oui, bien sûr, c'est pas bien.
Bien sûr, il sent que c'est pas bien. C'est comme sous la torture quand on dénonce.
Ouais, ça veut pas dire qu'il va l'embrasser là.
Non, ça veut pas du tout dire. Je veux dire, sous la torture, les gens dénoncent. Et ils savent qu'ils ne doivent pas.
Selon Kant, la règle. C'est que, bien sûr, on va porter le faux témoignage. Je veux dire, l'histoire, Kant n'est absolument pas optimiste, hein, anthropologiquement. Attention, il n'est pas du tout question de penser que la plupart des gens vont renoncer à commettre ce faux témoignage. La plupart des gens vont choisir, mais librement, de perdre l'innocent pour sauver leur peau. Mais en revanche, ce qui est certain pour Kant, c'est qu'ils sauront que c'est mal, et que sachant que c'est mal, ils sauront qu'ils pourraient ne pas le faire. Ça ne veut pas dire qu'ils vont hésiter, etc. Puisqu'en général, en effet, ce qui est le plus agissant, bien sûr, c'est l'amour de la vie, l'instinct de conservation, etc.
Vous connaissez le texte de Sigmund Freud de 1915, Considération sur la guerre et la mort, où il dit finalement l'interdit du meurtre que nous avons cru si bien ancré en nous, par la religion notamment, mais Kant dirait pas par la religion, par notre raison pratique, eh bien on voit avec la guerre de 14 que ça n'a pas du tout retenu et que nous sommes, je cite Freud, nous sommes rien d'autre qu'une bande d'assassins. Ce ne serait pas exactement la conclusion de Kant ?
C'est-à-dire que alors, le point de vue de Freud, c'est un point de vue qu'on peut dire naturaliste, hein, comme Hobbes, etc., mais selon d'autres voies, mais c'est un point de vue naturaliste. Et ce point de vue naturaliste, il ne peut pas falsifier comme tel ce que Kant dit, puisque l'idée de Kant, c'est que, certes, on peut même avoir des motions agressives et destructives, mais ça, précisément, c'est la nature en nous. Et ça ne changera pas le fait que nous saurons qu'au fond, obéir à ces pulsions, y compris avec joie, dans le pire des cas, c'est mal. Et c'est cette distinction, vous voyez, entre le désir et la norme qui, elle, pour Kant, ne peut pas être effacée. C'est-à-dire que, y compris ceux qui vont, les assassins joyeux, si vous voulez,
oui,
ils prendront du plaisir à faire du mal, mais c'est pas pour ça qu'ils ignoreront que c'est mal. Et sachant que c'est mal, et ça c'est la thèse de Kant, ils découvriront du coup qu'ils pourraient s'abstenir, ils pourraient être autrement, ils pourraient faire autrement. Et c'est ce pouvoir que signifie la liberté. Et c'est le devoir qui, du coup, voyez, nous révèle ce pouvoir.
Christian Berner, vous voulez ajouter quelque chose ? Après, je poserai le problème de comment on peut aller vers cette liberté morale plus facilement.
Oui, c'est-à-dire que pour reprendre les termes d'Antoine, la morale permet de penser que le monde peut être autrement. C'est-à-dire que on n'est pas condamné à une perspective sur le monde, qui est la perspective morale, mais qu'il peut être conforme à la morale, ce qu'il va appeler un règne de la liberté, etc. Donc, ça dépend de la perspective que l'on met, que l'on porte sur le monde. Et Kant est un penseur de la perspective. Lorsqu'il traite de l'opposition entre la liberté et le déterminisme, il dit qu'on peut changer de perspective et que, de ce fait, elles ne sont pas contradictoires si tant est que l'on change de perspective. Et donc là, le monde moral est un monde tel qu'on voudrait qu'il soit, conformément à la morale. Et c'est, à mon sens, ce qui est fort dans la morale de Kant, c'est ça, c'est prendre conscience qu'on ne se contente pas du monde tel qu'il est,
oui,
mais on envisage le monde tel qu'il doit être, et qu'on œuvre par la morale à la réalisation d'un monde tel qu'il doit être.
Et que cette lumière en nous ne s'éteint jamais.
Voilà.
Tout à fait. Au fond, une lumière de révolte possible contre le monde tel qu'il va et de désir d'un monde plus moral.
Voilà.
C'est ça. Tout à fait. Alors, oui, je vous en prie, Antoine.
Je pense qu'en effet, c'est très important qu'au fond, on comprenne que ce qui est au fond de cette histoire, c'est quand même de comprendre que la réalité, si on veut parler simplement, la réalité n'est jamais un argument suffisant.
Oui.
Voilà. Et donc,
j'ai envie de dire pour Kant, mais pour vous. Et,
bah, je pense
et
que,
sur ce
que,
point, que, je si sens que tout le monde lui donne raison.
Que si on a l'idée que peut-être les faits ne sont pas l'horizon définitif de notre action et que du coup, peut-être, on pourrait œuvrer pour que les choses changent, c'est important de garder cette perspective.
Alors, comment pourrait-on devenir plus aisément des êtres moraux, c'est-à-dire embrasser plus naturellement, enfin c'est pas un bon mot pour Kant, plus spontanément la loi morale plutôt que d'autres impulsions. Ce problème est aussi évoqué par Kant, notamment dans un livre qui s'appelle « La religion comprise dans les limites de la seule raison ». En 1793, il pose le problème de devenir mûr véritablement pour la liberté. Écoutez et nous commenterons après.
J'avoue ne pas me sentir à l'aise avec cette expression, dont se servent aussi des hommes certes réfléchis. Tel peuple, qui est en train d'élaborer une liberté légale, n'est pas mûr pour la liberté. Les serfs d'un propriétaire terrien ne sont pas encore mûrs pour la liberté. Et ainsi, de façon générale, les hommes ne sont pas encore mûrs pour la liberté de croyance. Mais dans une telle hypothèse, la liberté n'adviendra jamais, car on ne peut pas devenir mûr pour la liberté si l'on n'a pas, au préalable, été mis en liberté. Il faut être libre pour pouvoir se servir de ses forces de façon appropriée, en toute liberté. Il est vrai que les premières tentatives seront grossières et généralement liées à un état plus pénible et plus dangereux que celui dans lequel on se trouvait alors qu'on était encore placé sous les ordres mais aussi sous la pourvoyance d'autrui. Seulement, on ne mûrit jamais au profit de la raison, autrement que par ses propres tentatives, qu'il faut être libre de pouvoir entreprendre. Je n'ai rien à opposer à ce que ceux qui ont le pouvoir entre leurs mains, forcés par les circonstances du moment, renvoient à plus tard, bien plus tard, de renoncer à ces trois chaînes, de l'État, de la famille et de l'Église. Mais ériger en principe que la liberté n'est pas faite pour ceux qui se trouvent être assujettis à eux, et que l'on a le droit de les en écarter pour toujours, c'est là une atteinte au droit régalien de la divinité elle-même qui a créé l'homme pour la liberté. Il est vrai qu'il est plus commode de dominer dans l'État, la famille et l'Église quand on peut imposer une telle proposition fondamentale. Mais est-ce aussi plus juste ?
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mulman.
Nous parlons d'Emmanuel Kant et de sa théorie morale cette semaine. Aujourd'hui, notre question est de savoir si nous sommes plus libres plus véritablement libre lorsque nous nous comportons moralement que lorsque nous cédons à d'autres inclinations. Ce problème, nous le traitons avec Antoine Grandjean et Christian Berner, qui connaissent excellemment l'œuvre d'Emmanuel Kant. Le texte que nous venons de lire, c'est Nicolas Berger, notre réalisateur, qui lit Kant cette semaine. Ce texte dit qu'il faut être habitué à la liberté pour l'embrasser plus facilement et devenir davantage moraux. Est-ce que j'exagère? Ou est-ce que c'est une manière, en effet, peut-être un peu forcée, mais pas tout à fait inexacte, de lire le texte, Christian Berner?
Alors, je ne sais pas si je dirais habitué à la liberté. Il faut être libre pour développer la liberté.
Mais on l'est toujours, elle nous a dit, quand on l'est, même quand on choisit son inclination sensible. Antoine Grandjean a beaucoup insisté, on est toujours libre de choix. Donc il parle de quoi? D'une liberté politique, alors, une ici, liberté juridique.
Alors, ces libertés sont articulées les unes sur les autres. C'est-à-dire qu'ici, il parle effectivement pas directement de la liberté de la liberté morale, il parle effectivement de la liberté politique, de la liberté de croyance et de la tutelle que certains peuvent exercer sur d'autres au sein de la famille, de l'État et de l'Église. En s'opposant à la formule suivant laquelle les hommes ne seraient pas mûrs pour la liberté et devraient donc encore être maintenus en esclavage avant qu'ils puissent être libres, Kant oppose l'idée qu'on ne peut pas apprendre la liberté, il n'y a pas divers degrés de maturité pour la liberté, et il l'avait dit déjà dans l'opuscule sur Qu'est-ce que les Lumières, la liberté est quelque chose qui s'exerce, on passe par des échecs, l'enfant tombe, etc., comme dans sa liberté de déambuler, etc. Mais, en soi, l'exercice de la liberté se fait par une liberté qui est une liberté propre à la raison, d'abord et avant tout, une liberté de penser qui doit être garantie, quelles que soient par ailleurs les contraintes dans lesquelles on est soumis au sein de la famille, de l'État ou de l'Église.
Alors je précise à nos auditeurs que le texte de Kant de 1784, Réponse à la question Qu'est-ce que la lumière, a ouvert la semaine dernière notre série sur Qu'est-ce que les lumières. Et en effet, c'est un texte, puisque vous l'évoquiez, Christian Berner, qui dit finalement à Frédéric II de Prusse, le prince, le roi, n'attend pas, comme tous les tyrans, que ton peuple soit éclairé pour lui donner la liberté de s'exprimer. C'est au contraire en lui donnant la liberté d'expression, avec les tâtonnements qui évoquent effectivement les enfants qui ne marchent pas tout de suite sans tomber. Après ces tâtonnements, ils finiront précisément par s'éclairer. Donc il faut d'abord donner une liberté juridique, là en l'occurrence la liberté de presse, liberté d'expression, pour que les gens s'habituent à la liberté et ils s'éclaireront de ce fait. Est-ce que c'est ça, ce texte, ou est-ce que c'est un peu plus... Ça ne porte peut-être pas que sur la liberté d'expression. Je vous écoute, Antoine Grandjean, pour ce texte-ci.
Alors oui, ça fait écho, en effet, donc à quelque chose qui est fondamental pour Kant, puisqu'il évoquait déjà ce point en 1784. Mais ici, c'est la même thèse de fond, mais développée dans un contexte et dans une amplitude un peu différente. Il faut bien avoir à l'esprit que donc on est en 1793, et c'est dans un texte qui concerne la question religieuse, mais on est en 1793. Et la thèse de fond, c'est que, au fond, la liberté ne s'apprend que librement. On ne peut apprendre que librement à être libre.
Oui.
Et donc, il faut s'opposer à un motif conservateur, qui est de dire, oui, la liberté, c'est bien, mais vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt, et donc, ça attendra. Ça attendra, et alors les exemples que prend, enfin les trois chaînes qu'évoque Kant, un tel peuple n'est pas mûr pour la liberté, un tel peuple, donc 1793, c'est le discours conservateur, voire réactionnaire de l'Europe en disant, vous voyez ce que ça fait la France. C'est la terreur, c'est la destruction de l'État, si en fait...
Mais c'est aussi enfin l'abolition de l'esclavage, qui voilà. Était ignorée en 89,
mais si vous voulez... Pour les réactionnaires de toute l'Europe, la terreur, c'est un argument qui serait censé prouver que les gens ne sont pas mûrs pour la liberté, si vous voulez. L'autre exemple, c'est celui des serfs. Les hommes ne sont pas encore mûrs pour la liberté, et donc il ne faut pas libérer les serfs. Hein. En Prusse, le servage n'est pas aboli, hein, il sera aboli au début du 19e siècle. Et puis évidemment, la liberté de croyance, de foi, hein. Il ne faut pas que, au fond, les individus puissent déterminer par eux-mêmes ce qui est divin, etc. Il faut obéir à l'Église. Et donc, Kant, face à ça, répond... On ne peut devenir mûr pour la liberté que librement. Donc, mettez-les en liberté. Au début, ça va faire mal. Hein, ça va faire mal.
C'est un peu ça pour lui, la terreur. Ça va faire mal.
C'est-à-dire que ça fait mal. Hein, ça fait mal. Mais c'est juste. C'est-à-dire que l'inconfort que la liberté peut produire n'est absolument pas un argument contre elle. Et que c'est précisément en passant par une phase... qui peut être inconfortable, et ça c'est un euphémisme, je veux dire, il y a... voilà, que alors seulement on pourra mûrir pour la liberté. Autrement dit, on apprend à être libre que librement. Il n'y a aucun motif qui pourrait, pour des raisons d'immaturité, fonder une politique et une pratique religieuse et un droit privé, hein, le cerf appartient au fond aux domestiques, hein. Il n'y a aucun argument qui pourrait destituer la nécessité de la liberté. Le confort, l'inconfort ne sont pas des arguments face à la liberté. Il faut laisser la liberté mûrir par elle-même.
Même pour les imbéciles, il s'amuse bien, il tombe jamais dans les pièges, il se laisse pas étourdir par les néons des manèges, il vit sa vie sans s'occuper des grimaces que font autour de lui les poissons dans la nasse. Il est libre, Max, il est libre, Max, il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Travaille un petit peu quand son corps est d'accord. Pour lui, faut pas s'en faire, il sait doser son effort. Dans le panier de crabe, il joue pas les homards. Il cherche pas à tout prix à faire des bulles dans la mare. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Il regarde autour de lui avec les yeux de l'amour. Avant que t'aies rien pu dire, il t'aime déjà au départ. Il fait pas de bruit, il joue pas du tambour. Mais la statue de marbre lui sourit dans la cour. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler.
Merci beaucoup Antoine Grandjean, Christian Berner pour cette passionnante discussion que nous avons eue sur la véritable liberté chez Kant, qui est la liberté morale, même s'il y a d'autres formes. On est toujours libre, mais on l'est plus ou moins selon ce qu'on atteint en termes de comportement. Les références de vos travaux sont précisées sur le site de notre émission. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Worms, dont la série cette semaine a pour thème les pouvoirs de l'influence. Voici le pourquoi du comment.
Pourquoi l'influence est-elle si profonde ? Lorsque nous disons les uns ou les unes que nous avons été influencés par quelqu'un pour faire tel ou tel comportement, lorsque nous parlons aussi aujourd'hui dans le monde social des influenceuses ou des influenceurs qui ont des effets très profonds sur un groupe social ou sur une société, parfois dans son ensemble, lorsque nous employons donc cette notion d'influence, nous savons en effet que nous faisons référence à quelque chose de très profond, à un pouvoir possible des esprits humains, en tout cas, notamment les uns sur les autres, autres, au discours des humains les uns sur les autres, qui dépasse les simples pouvoirs de compréhension et de conviction intellectuelle, comme si, en effet, être influencé, ça n'est pas seulement être d'accord avec quelque chose. Si on me dit, par exemple, tu dois faire ceci ou cela, je vais dire je suis d'accord ou pas d'accord, je vais voter pour X ou pour Y. Je ne vais pas parler d'influence, je suis convaincu, l'argumentation m'a démontré quelque chose. Mais être influencé, c'est plus profond, bien sûr. C'est peut-être que ça remue aussi les profondeurs de l'esprit en tant que pouvoir d'affirmer ou de nier, d'accorder, de consentir ou de refuser. Mais il y a quelque chose de peut-être plus profond encore qui peut aller jusqu'à une emprise affective et passionnelle. Et d'un autre côté, cet effet très profond, peut-être aujourd'hui, d'une manière très précise, se restreint aux actions intersubjectives des humains les uns entre les autres. Nous sommes là dans notre capacité d'être vivant, passionnel, profond, mais en même temps quand même dans la relation humaine en tant que telle. De ce point de vue, la notion moderne d'influence, celle qui nous travaille aujourd'hui dans nos sociétés, n'est plus celle que François Roustang, dans son magnifique livre « Influence », faisait remonter à l'astrologie médiévale. À cette théorie, je cite, « cette première définition du mot « influence » en français au XIIIe siècle, ou en latin, influentia, une action attribuée aux astres sur la destinée des hommes. Il y avait donc au XIIIe siècle cette théorie de l'influence du cosmos sur nos esprits. Elle n'a jamais entièrement disparu. Nous lisons nos horoscopes pour savoir par quoi nous pourrions être influencés en profondeur comme êtres vivants, cosmiques, animaux, nous dit aussi François Roustang. Mais aujourd'hui, cette profondeur biologique de nos esprits, cette puissance de perméabilité en quelque sorte, qui fait que notre subjectivité profonde est accessible à une causalité non moins profonde, venue plutôt des autres esprits humains que du reste de l'univers, cette notion d'influence est en effet très mystérieuse, très dangereuse et très ambivalente. Dans son étude, François Roustang revendique un sens positif de la notion d'influence, un sens thérapeutique de la notion d'influence. Bien sûr, nous avons peur aujourd'hui des influences qui ont sur nous une emprise, un pouvoir dominateur et aliénant, qui nous dépossède de notre capacité profonde d'agir. Mais ce que montre François Roustang, critiquant une vision trop rationaliste et freudienne au départ de la psychanalyse, c'est que à travers le transfert, à travers aussi l'hypnose qu'il revendique, il y a des thérapeutiques qui accèdent à notre moi profond, en nous, sans nous, pour nous libérer de ce qui nous aliène précisément. Peut-être qu'il y a des thérapies par de bonnes influences et qui nous libèrent d'une influence subie et parfois dangereuse. En tout cas, l'influence prouve que nous ne sommes pas seulement des esprits au sens intellectuel du terme, que nous sommes des êtres passionnés, passionnels, vivants. Roustang, d'une manière anticipatoire, disait aussi justement des êtres vivants, une animalité en nous qui est accessible à des influences pour le meilleur et pour le pire.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être écoutées en podcast sur l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission était réalisée par Nicolas Berger avec à la technique Anthony Thomasson. Elle a été préparée par Carla Michel en particulier et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Anna Fulpin, Corinne Amar, Victoire Mellet, Luce Mourant, Luna Hajla et Nassim El-Kabli. Vous êtes sur France Culture, vive la curiosité.